Bonsoir Jacques, enfin.
Et bienvenue dans Ondes Noires.
L'émission Polar.
La plus rock de la bande FM.
Allez, on change un petit peu. Bonsoir Jacques, donc comme je l'ai dit.
Et nous allons donc retrouver quasiment immédiatement
voilà, c'est
Jean-Marc
pas la même
Laérer.
Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Eh bien, très bien.
Apparemment, vous n'allez pas parler d'un livre, ni de deux, mais de trois. Et
oui,
plutôt d'un auteur.
Voilà, et puis pour une fois, ce ne sera pas une nouveauté. Oups, ça a fait bip, mais ce sera une réédition. Parce que Rivage a eu une excellente idée, qui est de rééditer trois vieux romans d'un auteur écossais qui s'appelle William McIlvaney.
Ça fleur bon le whisky, ce nom.
Oui, c'est trois romans. Alors, il ne boit pas que du bon, je pense, là, quand même. Hein, parce
ouais,
que c'est assez trop lourd, quand même. Et c'est trois romans qui se passent à Glasgow autour d'un flic qui s'appelle Ledlow. Alors, ces romans, ils ont été publiés en France une première fois dans les années 80-90, entre 87 et 92. Et il s'agit de Ledlow, le personnage. Donc le premier roman s'appelle Ledlow, le suivant s'appelle Étrange loyauté, le troisième Les papiers de Tony Veitch. Mm-hmm. Ils sont tous traduits par Freddy Michalski. Voilà. Alors, William McIlvaney, c'est le fils d'un mineur. On va voir que c'est je crois que et qui est né dans une petite ville proche de Glasgow. C'est à peu près les deux choses qui sont importantes pour comprendre son œuvre, puisque cette œuvre elle va tourner un autour de Glasgow, mm-hmm, et puis autour du milieu ouvrier. Ouais, il manque peut-être un roman qui est assez dans ses rééditions qui s'appelait Big Man, qui est aussi qui complète bien cette trilogie. Et d'ailleurs, le personnage de Big Man, on va le retrouver dans un des romans de la trilogie. Donc Ledlow, qui c'est? Ledlow, c'est un flic assez classique dans l'imaginaire polar. C'est-à-dire que c'est un flic doué, grand de gueule. Il est de Glasgow et il enquête sur un certain nombre de cas. Donc dans Ledlow, il enquête sur le viol et le meurtre d'une jeune fille de 18 ans. Et il enquête, il doit faire très très vite quand il enquête, parce que la pègre a décidé d'aider le père de la jeune fille. Le père qui lui-même n'est pas un enfant de cœur, c'est une espèce de colosse qui est très violent, qui est rude, qui est bien décidé à faire justice lui-même. On va suivre trois histoires en parallèle, qui est une espèce de course de vitesse entre donc Ledlow qui enquête, la pègre et le père qui cherche de leur côté. Et puis de son côté, un ami du meurtrier qui essaye de l'aider à quitter la ville sans encombre. Donc tout ça, c'est l'histoire, donc qui est très bien tricotée. Et ce qui fait la grande force de ce roman, qui fait la grande force aussi de Big Bang, on en a parlé, puis d'Étrange loyauté, c'est que ça dépeint un moment très particulier de cette histoire de l'Écosse. C'est le moment où, et pas qu'en Écosse d'ailleurs, dans toute l'Angleterre puis dans toute l'Europe, où la classe ouvrière perd ses repères. Elle perd ses repères parce qu'elle commence à perdre le boulot, parce que il y en a un qui s'appelle Étrange loyauté, parce que les loyautés de classe sont en train de se déliter, parce qu'il y a des travaillistes qui sont arrivés au pouvoir et qui se révèlent presque aussi à droite que les autres.
Oui, donc il y a toute une perte. Je suis de l'un foutu de l'autre.
Voilà. Il y a une perte totale de repères, une perte d'une structuration par syndicat, par classe ouvrière, par le fait que les mines n'ont plus de boulot, parce qu'on n'est plus défini par son travail. Et ça, on le retrouve dans tous ses romans, que ce soit Big Man, qui est plus son roman noir, c'est-à-dire sans enquête policière, ou Ledlow, Étrange loyauté et Les papiers de Tony Veitch, qui sont plus des enquêtes.
Non, on est vraiment dans le roman noir aussi. Hein.
Oui, qui sont aussi des grands romans noirs, dans le sens où c'est des romans sociaux, c'est des romans qui décrivent toute une période historique et toute une réalité sociale. Et par exemple, Étrange loyauté, dans Étrange loyauté, justement, Ledlow, il va croiser Big Man, le personnage de Big Man qui a disparu, et dont le... il va mal, Ledlo, comme tous ces flics, il en déprime, son frère vient de mourir, il a une relation qui marche pas, donc il picole. Enfin, c'est vraiment le flic comme on les connaît,
Oui, comme il y en a pas mal dans les voilà. Romans, effectivement.
Et qu'est-ce qui fait la force finalement de ces romans par rapport à d'autres où c'est un simple cliché? Ben, c'est que c'est la description, c'est-à-dire que McIlvaney s'intéresse à ces personnages, il les incarne, il les aime, il a de l'empathie pour ces personnages perdus. Il décrit magnifiquement cette société où les enfants d'ouvriers qui sont dépossédés de tout, de solidarité, de valeurs de classe sociale, ils se retrouvent finalement dans une situation beaucoup plus désespérée que celle de leurs parents. Et Ledlow, c'est un peu comme le personnage un peu de Robin Cook aussi, son sergent des affaires perdues, là, des affaires non résolues, c'est comme un peu le médecin légiste de cette société, quoi. Il supporte plus l'hypocrisie, il supporte plus l'indifférence, et il essaye de comprendre qu'est-ce qui est mort et quelle est la cause de la mort, mais de la société autant que des personnages.
Oui.
Et malgré toute cette noirceur, ben William McIlvaney, il arrive à donner une immense humanité parce qu'il fait des très très beaux personnages, des très beaux portraits de personnages qui sont forts, de très beaux personnages de femmes. Et c'est ça qui finit par qui donne de la chair et qui fait que on n'a pas envie de laisser tomber en se disant non, c'est trop noir, je peux pas continuer.
Oui, et puis c'est vrai que c'est le réalisme est ultra présent, en fait. On est vraiment, voilà, les personnages, on peut les croiser. Glasgow, les descriptions, voilà, on est dans vraiment dans le réel.
Voilà, oui. William McIlvaney est à Glasgow et Ian Rankin est à Édimbourg.
Voilà, c'est un peu grands
écossais.
Avec un côté encore plus social, je pense, pour McIlvaney que pour Ian Rankin, même si de temps en temps, dans les derniers, on flirte effectivement avec le roman noir, mais est-ce ses origines de mineur Mais c'est vrai qu'il est très très branché et c'est tout le celle du roman noir actuel.
Ouais, je me souviens, j'en avais lu un dans la collection Engrenage, il me semble qu'ils étaient parus à l'époque, il y a longtemps.
Ça fait quelques années.
Qui était déjà dirigé par François Garry.
C'est aussi le fait que, bon, moi je suis jamais allé en Écosse, mais d'après ce que j'ai compris, Glasgow c'est la ville quand même plus prolétaire et ouvrière, et Édimbourg c'est plutôt la ville un peu plus étudiante, bourgeoise et autres. Donc ça explique aussi les différences de point de vue.
C'est effectivement ça, oui.
Nous confirmons. Et d'ailleurs, on vous enjoint à aller en Écosse parce que...
En dehors
de voir les réalités sociales des romans noirs, c'est aussi un pays magnifique.
Voilà. Après, c'est dommage que William McIlvaney, à ma connaissance, a arrêté d'écrire à un moment, puisque ça fait quand même très longtemps. Là, on a ces rééditions qui tombent à point, puisque c'est pas toujours facile de se maintenir au courant de ce qui est paru. Là, c'est dans la fin des années 90. Je ne sais pas trop s'il a publié d'autres choses en Écosse depuis.
Ben, il me semble que non. Enfin, moi, j'ai regardé, il me semble que non, mais bon, on ne peut pas tout savoir. Par contre, il y a son fils maintenant, Liam McIlvaney.
Oui.
Qui était pas si mal que ça, d'ailleurs.
Oui, c'est pas mal. C'est pas encore aussi bon.
Mais c'est quand même pas mal. Ça va être difficile, de toute façon.
Voilà.
On va peut-être rappeler, peut-être rappeler leur titre.
Alors, Ledlow, Étrange loyauté et les papiers de Tony Veitch, voilà. Chez Rivage. Et si ça vous donne l'occasion d'apprécier William McIlvaney, recherchez Big Man.
Big Man, oui.
C'est absolument indispensable aussi.
C'est un des dans le ten top. Et puis, on a oublié, oui, c'est Rivage Noir, c'est la petite collection, pas tout à fait de poche, mais c'est une réédition Rivage Noir.
Voilà, c'est ça, c'est Rivage Noir, oui. Exactement.
Jean-Marc, merci beaucoup. À très bientôt.
Merci à vous. Bonne émission.
Merci beaucoup et de bonnes lectures prochaines.
Voilà.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Alors, Jacques, un petit peu de musique.
Un petit peu de musique. Et donc.
Comme souvent en ce moment, on va rendre hommage.
Ah, voilà, à un musicien qui nous a quittés. C'est un grand bluesman. Tout le monde dit le plus grand. Peut-être, bon, chacun a ses goûts. En tous les cas, c'est un grand bluesman. Il s'appelle B.B. King. Et on va écouter une des nombreuses versions de son tube, qu'il n'a pas écrit d'ailleurs, mais qu'il a popularisé, « The Thrill Is Gone », et ça n'a rien à voir avec Lyon, bien évidemment. Et cette version-là est enregistrée en 1971 au Cook County Jail de Chicago, donc dans l'Illinois, et vous reconnaîtrez dès les premières notes ce son de guitare inimitable avec sa guitare qui s'appelait Lucille. The Thrill Is Gone, B.B. King. Par B.B. King. L'avantage de cette version, c'est qu'elle n'est pas vraiment polluée par l'orchestre à cordes avec lequel il joue d'habitude ce morceau.
Eh bien, tu vas nous parler maintenant d'un livre qu'on va dire fort à propos.
Voilà. Eh bien, en fait, oui, parce qu'à Onde Noire, on recule devant rien, vous le savez certainement. C'est le Festival de Cannes en ce moment. Eh bien, nous allons vous parler d'un roman qui se passe au Festival de Cannes, cette année en fait. Même si les journaux ne vous ont pas vraiment rendu compte de ce qui s'est passé dans le roman.
Ça alors.
Il est vrai que les faits racontés se déroulent dans une section parallèle du festival, qui est donc bien moins glamour. Il n'y a pas de Salma Hayek, de Vincent Lindon, ni rien.
De talons sur des tapis
de
rouges.
De talons rouges, voilà. Donc ça se passe dans le jury Jeunes Talents. Alors les amateurs de Brigitte Aubert vont retrouver une de ses héroïnes.
Oui, parce que pour l'instant, t'as ni dit le titre du livre, ni l'auteur.
Donc c'est donc un livre de Brigitte Aubert qui s'appelle, vous allez peut-être deviner, La mort au Festival de Cannes, et qui est paru aux éditions Seuil Policier, en grand format. Et donc, les amateurs de Brigitte Aubert, je disais, vont retrouver une de ses héroïnes, Élise Andrioli, celle qui était dans La mort des bois et dans La mort des neiges. Les autres, ceux qui n'ont pas lu cela, ben, ils la découvriront, mais en fait, bon, c'est pas vraiment, ça nuira pas beaucoup à la lecture. Donc, je reviens à Élise Andrioli. Elle est membre du jury Jeunes Talents, donc, mais en plus, un des films adaptés d'une de ses précédentes enquêtes est présenté au public, en film. Le hic, c'est que Élise est aveugle, muette, comme une espèce de pied de nez au grand route du festival, voilà, un juré aveugle et muet. En plus, elle est tétraplégique, elle est dans un fauteuil roulant méga style, très, très moderne, elle ne peut bouger que la main gauche pour utiliser son super computer qui lui permet de s'exprimer, avec de la synthèse vocale, une espèce de version féminine de Stephen Hawking, en moins biscornu tout de même quand même. Alors, il va y avoir une première mort. Et oui, le titre, c'est « La mort au Festival de Cannes », je vous le rappelle, donc, il va y avoir une première mort. Une femme tombe dans la piscine pendant le buffet d'après-projection. La police conclut un suicide, mais pas Élise. Et elle a beau être fortement handicapée, elle a toute sa tête. Et pour elle, tout porte à croire qu'il y a eu meurtre. Mais qui et comment ? Pour l'instant, pas moyen de le savoir. Et puis, il va y avoir d'autres morts parmi les jurés dans l'entourage d'Élise. Il y a un flic qui est chargé de l'enquête, mais lui, il va piétiner. Heureusement, Élise va tout débrouiller. Alors, autant les précédentes enquêtes d'Élise, qui étaient donc La mort des bois et La mort des neiges, étaient des romans assez durs, des romans d'angoisse, de suspense, qui étaient parfois effrayants, souvent violents. Dans celui-là, c'est une pure comédie déconnante, si j'ose dire, dans le genre Frère Cohen, qui adapterait un roman de d'Elmore Leonard ou de Westlake.
Qui sont d'ailleurs les présidents
voilà. du jury. Tout en étant quand même français. D'abord, ça se passe à Cannes, c'est quand même pas un roman américain, c'est vraiment un roman bien français qui se passe à Cannes, du pur Brigitte Aubert quand elle fait dans l'humour. Alors, dans ce roman, Brigitte Aubert ne cherche absolument pas le réalisme dans son intrigue. Par contre, elle crée toute une série de personnages, une attachée de presse croquignolette, virtuellement vissée à son imachin truc, quelques artistes azuréens, plus épris d'eux-mêmes que de leur art, une bande de gamins.
Ça n'existe pas, ça.
Non, pas du tout. Il y en a certains, elle n'a pas mis le nom, mais on pourrait le nommer, hein, en trois lettres. Il y a une bande de gamins, qui sont donc les jeunes talents de cette section parallèle, qui sont tous brillants, mais fort peu adaptés à la société de nos jours. Et Brigitte Aubert s'amuse beaucoup avec ses personnages, et aussi donc avec le lecteur, qui du coup s'amuse lui aussi beaucoup. Alors bien que l'héroïne soit entre autres muette, c'est un roman qui est terriblement bavard. C'est pas péjoratif, mais Élise, elle peut pas vraiment parler, mais elle peut pas s'empêcher de penser. Et comme c'est elle, la narratrice, on sait tout de ses réflexions, de ses déductions, de ses tentatives pour communiquer ses doutes, ses craintes, ou même ses certitudes. Parce qu'alors ça par contre des certitudes... Elle en a. C'est fait de façon très, très enjouée. Alors que si on regarde bien ce qui est raconté, c'est plutôt terrible, inquiétant, une espèce de huis clos entre le palais des festivals, les grands hôtels de luxe et les villas cachées, très belles villas cachées dans les collines de Cannes qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de visiter. Un petit bonus à ce roman, c'est que Brigitte Aubert nous fait visiter les coulisses du festival, les arrières-salles, les endroits où on ne va jamais et que l'on ne montre pas. Des endroits qu'elle, par contre, connaît très bien. On sait que...
Oui, elle travaille dans le
cinéma. Travaille dans le cinéma. Elle tient un cinéma dans la ville de Cannes depuis de nombreuses années, dont on ne dira pas. Mais donc, elle connaît bien ce milieu et elle nous le fait visiter de l'intérieur de façon forte, fort documentée et fort agréable.
Et
un peu cynique, comme ça. De toute façon, Brigitte Aubert, il y a toujours du cynisme dans ses romans. Mais là, c'est un roman, c'est dans sa veine drôle.
Jubilatoire.
Et voilà, c'est jubilatoire. Donc voilà, ça se lit d'une traite... avec grand plaisir, voilà, c'est... Donc je répète, Brigitte Aubert, La mort au Festival de Cannes, chez Seuil Policier.
Et voilà, donc on va vous laisser écouter les informations et on revient dans quelques minutes.